Vous êtes bien sûr Radio Campus, et c'est Traverse sur le 106.6 jusqu'à 14h. Amandine D est écrivaine et slameuse. Son second roman, Et puis ça fait bête d'être triste en maillot de bain, vient de paraître aux éditions de La Contre-Allée, qui fête cette année ses 5 ans d'existence. Un humour acéré, une drôle de manière de tricoter les mots de la vie et de poser des questions essentielles comme « Comment diable font les garagistes pour lire en paix ?» Traquant l'absurde dans le moindre recoin de nos réalités, Amandine D n'a pas fini de nous étonner. Alors Amandine D, peut-être qu'on va commencer par un extrait de votre livre, très court, pour voir justement comment vous mettez les mots ensemble.
Avec plaisir. Alors je vais vous lire le premier fragment.
Oui, le début, c'est pas mal en fait.
C'est pas mal. Hein. Elle est laide, aurait dit ma grand-mère lorsque je suis venue au monde. C'est qu'il faut me voir, tout juste sortie du ventre. Mes yeux qui débordent du visage sans jamais voir vraiment, mes secousses du corps, impossible à soulager. Peser, mesurer, tester. On me jette de petits coups d'yeux, on chuchote de moi. Les infirmières marchent feutrées, il fait chaud. Ça sent le produit de nettoyage et de soignage, le bonheur et la confusion. Les visiteurs égarés ravalent leurs points d'interrogation. T'as eu mal? T'es recousu? T'as vu comme il est bizarre, ton bébé? Mes parents, dans une tentative désespérée, m'enfouissent sous un bonnet mignon, du coton coloré, prennent soin de me tenir à l'endroit et même me nomment. Je vous en supplie, disent-ils de leurs yeux creusés, faites comme si. Alors, la communauté se tait, ou plutôt dit les mots qu'il faut dire, et malgré le doute qui persiste, elle hoche la tête. Plus tard, quand ça se sera rembourré, quand ça se tiendra, elle reconnaîtra, soulagée. C'est un bébé humain. Voilà ce que ma grand-mère a sans doute confusément ressenti, mais les mots manquent souvent pour dire ce qui pèse sur le ventre. Elle a donc tenté ce « elle est laide », un peu sommaire. Ensuite, les versions diffèrent. Ma mère assure que j'ai été en couveuse, mon père dit que non. Comme je suis très frileuse, je crois que ça m'aurait plu.
Amandine D, merci. En tout cas, ça commence fort, ce livre. Comment vous avez rencontré les mots et l'envie de les mettre ensemble?
Mais c'est ce dont je parle dans le début de ce texte. Je pense que j'ai rencontré les mots parce qu'on me les a glissés dans l'oreille, déjà petite, que ce soit des histoires racontées. Je parle aussi des radiocassettes que j'entendais quand j'étais petite et qui ouvraient tout un monde dans mon petit cerveau. Ensuite, je suis devenue plus autonome par rapport à la lecture. Donc c'est les premiers récits pour enfants. Et c'est rigolo parce que j'en parlais il n'y a pas longtemps avec mon amie sur toute cette presse enfantine. Enfin, pour moi, c'était très important, les rendez-vous, les premiers magazines que je découvrais, les abonnements, puis après tout ce qui est bibliothèque rose, bibliothèque verte. Enfin, et ça, c'est intéressant parce que c'est un peu des premiers... c'est un peu ce que les adultes destinent aux enfants dans un premier temps. Et puis après, on devient encore plus autonome et puis on va vers les livres qui nous touchent. Voilà.
Donc vous étiez une petite fille qui aimait la lecture.
Oui, ouais, qui aimait qu'on me raconte des histoires. Et je pense que, enfin, j'insiste parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'il y a quelque chose de, doux et d'intime qui se crée, je pense, quand on nous lit des histoires. Et puis ensuite, on construit cette bulle seule. Mais moi, j'ai toujours aimé lire.
Ce qui est intéressant, parce que quand on vous lit les histoires, c'est oral. Donc l'histoire passe d'abord par l'oreille. Il y en a qui disent qu'il faudrait lire les livres d'ailleurs à voix haute, et c'est un petit peu ce que vous faites dans le slam, enfin, sans les lire, en tout cas vous improvisez un texte ou vous dites un texte que vous avez fait. Alors, et moi je pense que le slam, c'est une vraie manière de libérer les mots qui ne sont plus écrits sur une page, mais qu'on lance comme ça.
Mais il y a plusieurs aspects. Hein. Moi, j'ai effectivement commencé par la scène ouverte quand j'ai écrit mes premiers textes. Très concrètement, les scènes ouvertes, c'est quelque chose qui est vraiment important quand on débute dans l'écriture. C'est tout simplement faire entendre ces mots. Parce que voilà, on commence à écrire et on n'est pas tout de suite édité. Et du coup, comment faire vivre ces mots, comment les adresser et puis les confronter à des oreilles, hein, pour avoir des retours. Pour avoir des retours et puis aussi pour se créer une communauté de gens qui, comme vous, aiment les mots. Puis c'est vrai que les dire à voix haute, c'est aussi une façon de leur donner de la chair et d'être dans un rapport à l'autre, de créer. Je pense qu'on écrit pour rencontrer les autres et du coup les porter avec sa voix, c'est les incarner et puis c'est vraiment regarder l'autre dans les yeux en adressant ses mots, c'est important.
C'est un peu être comme un comédien finalement, adresser ses mots. François Clavier, dans le discours de la servitude volontaire de la Boétie, quand il est sur scène, il est tout seul, il pourrait presque être slameur parce qu'il adresse vraiment au public un discours et il est tout seul. Mmh. C'est la différence entre comédien, enfin qu'ils sont plusieurs. Quand on est seul, c'est un peu la même idée. D'ailleurs, pour faire du slam, vous avez rejoint la Compagnie Générale d'Imaginaire.
Tout à fait.
Alors, et puis ça fait bête d'être triste en maillot de bain. Déjà, c'est pas facile à dire à la radio. Et moi, j'ai trouvé que c'était un drôle de titre.
Alors, ce drôle de titre, effectivement, pas si simple à dire. Il faut prendre son temps pour
sa respiration.
Alors, en fait, ce titre, il est tiré du texte. Et il est tiré d'un fragment où la petite fille du texte. C'est une situation toute simple qu'on est beaucoup à avoir connue. Cette petite fille est à la plage avec sa famille. Elle a la joie d'aller chercher un beignet sur la plage. Et puis elle revient triomphalement. Et en fait, là, il y a une sorte de gouffre qui s'ouvre à ses pieds parce que finalement, elle ne retrouve pas le parasol où toute sa famille l'attend. Et du coup, il y a la détresse interne parce que enfin, quand on est petit et qu'on se perd, c'est quelque chose qui est quand même très intense comme sensation. Et à un moment, un regard sur elle qui se dit mais je peux pas être triste. Voilà, il y a du soleil, je suis en maillot de bain, c'est la plage et je peux pas être triste. Voilà, premier nœud.
Oui, entre la réalité et puis ce qu'on pense à l'intérieur de soi.
Voilà.
En tout cas, vous pratiquez dans ce livre avec aisance une sorte d'autofiction. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'inventer ou d'écrire à partir de sa propre histoire ?
J'ai, en tout cas, moi, plutôt commencé par des textes qui étaient très, très métaphoriques et qui, du coup, étaient assez politisés, mais avec cette distance, de la métaphore. Mon premier livre, Du bulgome et des hommes, est effectivement éloigné de mon histoire personnelle. Et en même temps, moi, on m'a souvent dit « Ah, j'ai l'impression que tu es en face de moi quand je lis ce livre », parce qu'en fait, on parle de soi ou pas,
vous
on
êtes dedans.
Toujours avec soi-même. Et là, je sais pas si c'est plus facile, plus difficile. En tout cas, moi, je pense que ce qui est difficile, c'est d'être ancré dans qu'est-ce que j'ai envie de dire maintenant. Mm-hmm. Et là, c'est sûr que moi, de là où j'en suis, de mon histoire, etc., c'est ce que j'avais envie d'écrire, c'est ce que j'avais besoin d'écrire.
Alors, on ne va pas raconter toute l'histoire de cette petite fille. Il y a la blessure du divorce, il y a des vrais et des faux papas. Elle grandit, elle devient jeune adulte, elle travaille, elle est heureuse d'avoir des tickets restaurants. J'ai bien aimé. Et puis en fait, finalement, elle arrive au but de sa vie, elle est écrivaine. Et vous dites, je trouve une très belle phrase, c'est la sensation d'enfiler un manteau de fourrure comme pour jouer. Alors finalement, jouer avec les histoires, jouer avec les mots, c'est un vrai luxe.
Eh bien, c'est un vrai luxe au sens où c'est quand même avoir la chance de faire un métier qui fait profondément sens, ce qui est quand même pas rien. Et en même temps, c'est un peu ce que je raconte dans ce texte, c'est le tiraillement entre effectivement cette chance de faire un métier qui a du sens et en même temps, si c'est un métier qui peut faire un peu rêver, c'est aussi un métier qui tout de suite amène une idée de précarité. Qui est évidente, et ça c'est assez rigolo quand vous rencontrez des gens, c'est « Ah, tu fais ça, c'est super, mais ça va, t'arrives à en vivre ?» Parce que, à la fois c'est très chouette, et en même temps ça suscite toujours une inquiétude, parce que les gens ils se rendent bien compte, à part pour effectivement certains auteurs, mais que c'est, enfin en tout cas pour moi, hein, parce qu'après il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui travaillent à côté, et qui tricotent avec ça et qui s'en sortent. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un luxe. Et en même temps, j'aménage aussi le reste de ma vie en fonction, parce qu'effectivement, c'est peu rémunérateur.
Et ce n'est pas le manteau de fourrure tous les jours. D'ailleurs, dans un des chapitres, vous expliquez le dossier que vous envoyez pour avoir des aides, etc. Ça a l'air très, très compliqué. Alors, vous dites aussi, il est si difficile de s'asseoir face à une feuille, tandis que la vie tambourine à la porte. Alors comment vous écrivez chez vous, au café, à la plage, sur un cahier, sur un ordinateur, bref?
J'écris chez moi sur un ordinateur. Après, j'essaie quand j'ai une idée qui me traverse. Il y a toujours une petite partie du cerveau qui est en train de réfléchir à une histoire ou un texte. Du coup, j'essaie de noter très rapidement dans un carnet ce qui me vient, quitte à pas le garder. Et ensuite, j'écris chez moi, sur l'ordinateur.
Dans le calme.
Dans le calme.
Ouais, c'est ça.
Ça peut aussi m'arriver d'aller dans un café. Et dans ces cas-là, je sais que ça va mettre dans une posture différente d'écriture et que ça peut aussi amener quelque chose. Mais je sais que j'ai besoin de calme.
Un mot sur la forme de votre livre et ses encadrés qui ponctuent l'histoire.
Alors, par rapport à la forme, c'est une forme qui est fragmentée. Parce qu'effectivement, je m'imagine pas raconter la vie de quelqu'un d'une façon qui se veut linéaire. Pour moi, la forme des fragments, elle me paraît nécessaire, parce que c'est aussi dire on est fait de petits morceaux de puzzle et il n'y a rien qui puisse être dit comme ça d'un seul tenant, d'un seul fil. Après, sur les textes intercalaires, il y a plusieurs fonctions. Ça peut être une résonance par rapport à une histoire qu'on a entendue quand on est petit et puis qui là revient nous chercher. Ça peut être aussi une façon de pas écrire. De pas écrire quelque chose, mais de le faire comprendre avec le décalage d'un texte. Et ça peut être aussi, comme je parle beaucoup de la difficulté à l'échelle d'une famille, notamment, de créer des liens et d'aller les uns vers les autres. Et pour moi, les intercalaires, ils servent aussi à dire, finalement, au sein, si on grossit, on s'éloigne. Ces petites difficultés très, très privées, elles se retrouvent au niveau politique, sur la difficulté à accueillir l'autre.
Mmh. Très bien. En tout cas, l'humour, c'est peut-être la seule façon de ne pas sombrer. Et l'humour, vous le pratiquez avec éclat. Amandine D, merci. Donc on va pas tout dire puisque j'engage les lecteurs à lire votre roman. Et puis Ça fait bête d'être triste en maillot de bain, j'ai pas pris ma respiration, vient de paraître aux éditions de La Contre-Allée. Juste après la musique, rendez-vous avec Pierre Edor.
Merci.